Bienvenue au balado du collectif de recherche Femmes en vie. Je suis Isabelle Côté, membre du collectif et professeure adjointe à l'École de services sociaux de l'Université Laurentienne. Je partage aujourd'hui le micro avec mes collègues Alexandra Vincent, étudiante au doctorat en services sociaux à l'Université d'Ottawa, et Simon Lapierre, professeur titulaire à l'École de services sociaux de l'Université d'Ottawa. Dans cet épisode de notre série de balado, nous allons discuter des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales avec notre invitée, Madame Louise Riendo. Allô Alex, allô Simon, comment ça va?
Salut, ça va bien?
C'est une journée spéciale aujourd'hui. On célèbre la Journée internationale des droits des femmes qui a lieu le 8 mars de chaque année. Et c'est une journée qui est célébrée un peu partout dans le monde pour souligner la contribution positive des femmes à la société et dénoncer les injustices dont nous sommes encore la cible, notamment en matière de violences faites aux femmes, qui affligent plus d'une femme sur trois dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé, et on sait que ce chiffre-là très fort probablement sous-estimé. Et une des manifestations des violences faites aux femmes qu'on retrouve encore, c'est la violence conjugale, qui est un rapport de domination généralement exercé de la part d'un homme à l'endroit d'une femme, et qui se manifeste par le contrôle et la coercition. Et quand on pense à la violence conjugale, on pense aux maisons d'hébergement qui accueillent les femmes et les enfants. Et on a décidé aujourd'hui de se faire plaisir puis de préparer un épisode qui va porter un regard historique sur ces ressources-là et ça va nous permettre de réfléchir à leur rapport à la société québécoise. Donc, avant de commencer, Alex, toi, tu as travaillé quand même pendant plusieurs années en maison d'hébergement. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement qu'une maison d'hébergement?
Oui, dans le fond, une maison d'hébergement, c'est un endroit sécuritaire, chaleureux, confidentiel, qui accueille les femmes et les enfants qui tentent de fuir la violence conjugale. Donc, les séjours sont gratuits et en général, ben, ça peut varier là, de 0 à 3 mois. C'est toujours un contexte volontaire. Donc, la femme va rester le temps qu'elle a besoin pour faire ses démarches. Et il existe aussi des maisons seconde étape. Je pense que c'est important de le mentionner. Donc, maisons d'hébergement, c'est surtout quand on fuit la situation en urgence. Et les maisons seconde étape, ben, c'est vraiment un logement qui est sécuritaire, abordable. Donc, le loyer est ajusté en fonction du revenu de la femme. Et elles peuvent demeurer là jusqu'à environ 1 an, parfois plus, quand c'est vraiment quand il y a des enjeux là, de sécurité importants. Et les services, en fait, sont les mêmes qu'en maison d'hébergement.
Et c'est quoi les autres services qui sont offerts dans ces ressources-là? Parce qu'on parle d'hébergement, on parle de services d'urgence, mais il y a d'autres services qui sont offerts dans les maisons d'hébergement. Peux-tu nous en parler un petit peu?
Ben oui, en fait, en plus d'assurer un milieu sécuritaire confidentiel, les maisons vont offrir un suivi personnalisé aux femmes, donc selon leurs besoins, leur rythme et tout. Elles font aussi beaucoup de défense de droits, de l'accompagnement dans diverses démarches. Ça peut être auprès des services policiers, toutes les démarches liées au suivi d'une plainte criminelle, les démarches liées à la garde d'enfants, les droits d'accès, les démarches liées à l'immigration. Donc, tous les services juridiques, là, les intervenantes sont vraiment liées pour accompagner les femmes avec ça. Donc, beaucoup aussi d'informations, références. Ça peut aller jusqu'à accompagner les femmes à faire un budget, à faire la recherche de logement. Et il y a aussi tout le volet communautaire, une maison d'hébergement. Ben, il y a beaucoup de gens, des femmes, des enfants qui partagent les aires communes. Donc, il y a de l'intervention de groupes aussi. Et puis, ça peut être des rencontres thématiques selon les besoins et les intérêts des femmes et des rencontres de vie commune, par exemple. Je pense que c'est aussi important de mentionner que les maisons offrent tout un soutien au téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, les femmes peuvent appeler pour de l'aide, de l'écoute ou des références. Et c'est possible de rester anonyme pour ces appels-là. Et aussi, ben, les maisons vont généralement offrir un suivi post-hébergement. Donc, généralement, quand les femmes quittent, beaucoup des démarches ne font que commencer. Et souvent, ben, l'intervenante va continuer d'accompagner la femme dans les diverses démarches.
Ouais. Ben, c'est bien qu'on en parle parce que souvent on pense à ces ressources-là comme étant justement là, des refuges d'urgence, mais c'est bien aussi de savoir que on n'est pas obligé d'aller héberger pour recevoir des services. Puis Alex, peut-être aussi, ça serait intéressant de mentionner qu'il y a des services qui sont offerts aux enfants aussi dans ces ressources-là.
Oui, donc les maisons d'hébergement ont vraiment développé une expertise sur la problématique des enfants victimes de violences conjugales, mais aussi sur l'intervention. C'est important de le nommer, des fois on oublie ça, mais elles ont vraiment contribué à ces connaissances-là. Donc en maison d'hébergement, mais aussi en externe et en post-hébergement, il y a beaucoup d'interventions formelles ou informelles, donc toujours adapté à l'âge et aux besoins de l'enfant. Beaucoup d'interventions par le jeu, donc les intervenantes vont laisser la place à ce que l'enfant puisse s'exprimer. C'est vraiment, on mise beaucoup sur ça, que l'enfant se sente bien à la maison d'hébergement. Juste pour rappeler que c'est des enfants qui vivaient beaucoup sous tension à la maison, donc parfois il y a des besoins qui ressortent pendant le séjour en maison d'hébergement. Les intervenantes sont là pour soutenir la mère aussi à sa relation, par exemple, avec l'enfant. Les intervenantes vont sensibiliser les enfants ou les adolescents à la violence conjugale. Ils vont, selon l'âge, encore une fois, selon les situations, ils peuvent accompagner l'enfant dans l'élaboration, l'exploration de scénarios de protection. Donc déjà dès le début du séjour, des fois les intervenantes vont penser à la suite, comment ça va se passer une fois que l'enfant va quitter la maison d'hébergement. Beaucoup d'interventions pour favoriser le sentiment d'appartenance à la maison, vivre des expériences positives. Donc, elles vont organiser des activités mère-enfant, des activités de groupe, des sorties. Donc, c'est vraiment, il y a toute une gamme là, de services et d'activités dépendamment du temps et des ressources des maisons. Et aussi, il y a un soutien autant à la mère qu'à l'enfant pour différentes démarches, donc que ça soit relié à la santé, une nouvelle inscription à l'école, ou clarifier parfois certaines choses, notamment les jugements ou les décisions en cours. Là, des fois, les écoles ont besoin de plus d'informations, donc les intervenantes peuvent aider, soutenir la mère avec ça. Des demandes à l'IVAC aussi, les enfants qui ont été... directement et indirectement, victimes d'actes criminels aussi peuvent bénéficier de l'IVAC. Et pour finir, ben, il y a beaucoup de défense de droits aussi par rapport aux enfants. Par exemple, pour les démarches liées à la protection de la jeunesse ou dans le travail multisectoriel.
Mmh. Toute une panoplie de services, en fait, là, qui sont reliés à la violence conjugale, mais aussi à différentes démarches, là. Pour les femmes et les enfants. Juste à titre informatif, Alex, il y en a combien au Canada de maisons d'hébergement?
Bien, il y en a plus de 500 maisons au Canada. Il en faudrait plus.
Puis c'est intéressant parce que, oui, il y en a quand même plusieurs au Canada, mais il faut dire que ces ressources-là, elles existent aussi ailleurs. C'est pas juste au Canada qu'on les retrouve. Simon, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, ça vient de où le concept des maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants qui fuient la violence?
Oui, en fait, l'histoire du développement des maisons d'hébergement est fort intéressante. Les premières maisons d'hébergement sont apparues dans la première moitié des années 70. On identifie souvent le refuge de Chiswick en Angleterre, pas très loin de Londres, comme étant la toute première maison d'hébergement qui aurait été développée. Et d'ailleurs, une des fondatrices de cette maison d'hébergement-là, Erin Pizé, a publié un livre dans les années 70 avec un titre très évocateur. En anglais, c'était Scream Quietly or the Neighbor will Hear, qui raconte un peu vraiment l'histoire du développement de cette première maison d'hébergement-là. Et ce qui est, je l'ai lu il y a plusieurs années, mais ce que j'avais trouvé fort intéressant dans ce contexte-là, c'est qu'elle expliquait à quel point, en fait, les maisons d'hébergement sont un peu parties de rien et en fait au départ répondu surtout à un besoin des femmes de la communauté qui étaient souvent isolées, qui vivaient de l'isolement, qui vivaient toutes sortes de difficultés et c'est vraiment à partir du moment où elles ont rassemblé ces femmes-là et qu'elles se sont partagées leur expérience qu'elles se sont rendues compte en fait que ce qui était commun à un grand nombre de ces femmes-là, c'est qu'elles vivaient dans un contexte de violence conjugale où il y avait des enjeux de sécurité pour elles, pour les enfants, et c'est vraiment à partir de ce moment-là que se sont développées les maisons d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Donc on peut voir là, quand on regarde l'histoire historique des maisons, que c'est réellement là, des organisations qui se sont développées par et pour les femmes dès le départ. Et il faut dire, là, dans un contexte où il y avait très peu de reconnaissance même de la problématique de la violence conjugale et où il y avait évidemment très, très peu de ressources financières pour les soutenir. Donc, elles sont parties, là, quand je dis que ça a été des organisations qui se sont développées par et pour les femmes, là, qui se sont aussi développées vraiment grâce à l'engagement des femmes dans leur communauté, dans l'engagement par rapport à... et sur la solidarité, là, par rapport à d'autres femmes qui vivaient une problématique de violence conjugale. Ce qui est aussi extrêmement intéressant quand on regarde l'historique du développement des maisons, c'est que, en fait, j'ai parlé un peu du refuge en Angleterre, du premier refuge en Angleterre, mais c'est qu'en fait, très, très rapidement, on a vu des initiatives similaires se développer dans plusieurs pays, je dirais, anglo-saxons. On a vu la même chose se développer aux États-Unis, au Canada, et très, très rapidement, à l'intérieur, en fait, de quelques mois et quelques années, on a vu, là, se mettre en place tout un réseau de maisons d'hébergement à travers différents pays. Et je pense que c'est important de le mentionner quand même dans un contexte où on n'avait pas les moyens technologiques et de communication qu'on a aujourd'hui. Alors, le fait que autant de maisons d'hébergement se soient développées aussi rapidement dans différentes parties du globe, je pense que ça démontre aussi à quel point ça répondait vraiment à un besoin de plusieurs femmes d'avoir accès à un environnement sécuritaire, mais aussi à un réseau de femmes avec qui elles pouvaient partager leur expérience et être soutenu. J'ai bien hâte, en fait, d'entendre Louise un peu plus tard nous parler de l'historique des maisons d'hébergement au Québec, mais j'aimerais quand même mentionner que pour toute personne qui s'intéresse à l'historique des maisons d'hébergement, là, Isabelle, il faut lire ton livre là, sur l'histoire des maisons d'hébergement au Québec, là, parce que c'est vraiment une source fort intéressante pour mieux comprendre là, cette dimension-là.
Puis, tu sais, on le sait que ces ressources-là, elles se sont développées rapidement, puis un petit peu partout dans les pays anglo-saxons et ailleurs. Mais on sait qu'encore dans le contexte actuel, ces ressources-là peuvent avoir parfois de la difficulté à répondre à toutes les demandes. Donc, encore aujourd'hui, il y a énormément de demandes. Qu'est-ce que ça nous dit, Simon, sur la situation, sur l'état des lieux?
Ben, je pense qu'on l'a vu un peu plus tôt, hein, Alex, tu mentionnais toute la gamme de services qui est offerte par les maisons d'hébergement, c'est quand même assez impressionnant. Puis quand on compare avec le début du développement des maisons d'hébergement, il y a quand même aujourd'hui une reconnaissance beaucoup plus importante de la problématique de la violence conjugale, grâce d'ailleurs aux efforts des intervenantes et des militantes, notamment en maison d'hébergement. On sait qu'il y a aussi, je pense, ben en fait, on le sait, il y a aussi une reconnaissance plus importante du rôle que jouent les maisons d'hébergement pour la sécurité des femmes et des enfants. Mais malheureusement, malgré tout le travail qui a été fait là depuis dans les dernières décennies, ben on constate qu'il y a encore beaucoup trop de femmes et d'enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale et qu'on a encore un besoin criant de maisons d'hébergement. Et ce qu'on voit aussi, et on l'a vu là, notamment dans les derniers mois, dans un contexte de pandémie, ben on voit qu'il y a peut-être besoin encore plus de ressources parce que parfois on manque de place, notamment dans certaines régions, et on aimerait être en mesure d'offrir encore davantage de services, notamment à l'externe. Donc on n'est pas rendu au point où on a éliminé la problématique, et on voit que les maisons d'hébergement jouent encore un rôle essentiel pour assurer la sécurité des femmes et des enfants.
Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il y a la rupture, il y a la séparation, mais il y a aussi tout ce qui vient après et qui démontre en fait le besoin d'avoir des services externes, services connexes pour soutenir les femmes et les enfants dans le contexte post-séparation. Merci Alex et Simon pour avoir mis la table sur ce balado. Maintenant, on va accueillir une femme qui a joué un rôle clé au Québec dans le réseau des maisons d'hébergement, Madame Louise Riendeau. Bonjour Louise.
Bonjour.
Louise, tu es co-responsable des dossiers politiques au regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales depuis 1992. Avant de commencer, Louise, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est que le regroupement?
Ben le regroupement, en fait, c'est une association qui regroupe 43 maisons d'aide et d'hébergement. Et le regroupement, c'est un outil que se sont donné les maisons en 1979 pour justement avoir une voix collective. En fait, le rôle du regroupement, c'est représenter les maisons, les représenter pourquoi? En fait, pour faire reconnaître les besoins, les droits des femmes victimes de violences conjugales, de leurs enfants, pour faire évoluer les lois, les politiques pour que on assure une meilleure protection à ces femmes-là, mais aussi pour qu'on arrive à des changements sociaux qui vont nous amener plus d'égalité, qui feront que moins de femmes seront violentées. Le rôle du regroupement, c'est évidemment de sensibiliser à la fois la population, les intervenants, les gouvernements à la nécessité de détecter la violence conjugale et de prendre des mesures. C'est aussi un lieu de formation, de réflexion pour les intervenantes et l'ensemble du personnel des maisons membres. C'est un lieu où on publie différentes choses, que ce soit sur la problématique ou plus politique. Donc, c'est vraiment un outil que les maisons se sont donné dès 1979, là. Et alors qu'effectivement, au milieu des années 70, il y avait une dizaine de maisons qui ont commencé à se réunir, à réfléchir à la nécessité d'une association comme celle-là. En 79, elles étaient déjà 23 maisons et projets quand le regroupement a été fondé.
Mmh, pour faciliter les luttes collectives, oui. Entre autres.
Oui.
Donc, Louise, toi, tu as fait partie des premières femmes au Québec qui ont mis sur pied, ont développé les maisons d'hébergement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de quoi est-ce que ces maisons-là avaient l'air, là, disons, fin des années 70, début des années 80, de quoi avaient l'air les maisons d'hébergement dans leur début?
Ben, en fait, moi, je suis arrivée dans le milieu des maisons d'hébergement comme stagiaire, comme militante. Je dirais que j'ai été dans un rôle privilégié d'actrice, mais surtout peut-être d'observatrice de femmes qui ont mené beaucoup toutes ces luttes-là, celles qui étaient là plus permanentes dans les maisons d'hébergement. C'est sûr que à cette époque-là, je pense que pour regarder comment étaient les maisons, il faut regarder quel était le contexte social à cette époque-là. C'est une époque où s'il y a une prise de conscience des inégalités entre les hommes et les femmes, mais pas seulement. C'est une époque aussi où tu as des groupes politiques qui veulent permettre au milieu ouvrier d'avoir des meilleures conditions de vie. C'est une époque où le Québec parle d'autonomie. Donc, on est vraiment dans une époque que je dirais d'émancipation. Et c'est aussi une époque, tantôt Simon parlait du livre « Crie moins fort, les voisins vont t'entendre », qui était la traduction française là, du livre d'Erin Pizzi, qui a été une grande inspiration. Mais au niveau de la littérature, c'est aussi une époque qui nous a permis de réfléchir, de discuter. Tu sais, je repensais à cette époque-là, tu as des livres comme « Toilette pour femmes » de Marilyn French, qui nous permet de découvrir la vie des femmes, des ménagères dans leur vie de couple. Tu as des livres comme « Le viol » de Susan Brown Miller. Tu as des auteurs françaises aussi comme Benoît de Groux. Au Québec, on a Le Guillon de Lucky Bercianic qui cherche l'homme de son espèce qui est un homme avec plus d'égalité. Donc, tout ça alimentait beaucoup les réflexions et les maisons sont parties au fond de toutes sortes de femmes. Elles sont parties de militantes politiques marxistes, de féministes, de religieuses qui voyaient ce que les femmes vivaient et essayaient de leur aider. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'effervescence, mais peu de moyens. Tu sais, beaucoup de maisons sont nées par des projets de création d'emplois qui duraient 6 mois, 1 an. On savait jamais l'année d'après si on serait capable de soutenir, d'aider les femmes. Et c'est pour ça, notamment, que le regroupement a été créé pour dire il faut se battre pour avoir des moyens, mais il faut aussi se battre pour faire reconnaître la problématique. Parce que on était encore à l'époque où on disait tu te maries pour le meilleur et pour le pire, c'est privé, on parle pas de ça, alors que les féministes, elles, arrivaient en disant le privé est politique et il faut que la société bouge et il faut qu'on trouve des choses. Et les maisons aussi se sont au Québec, en tout cas, beaucoup inspirées du modèle qu'on avait en Angleterre, qui était une maison des femmes pour les femmes. Donc, elles se sont positionnées assez rapidement comme des ressources alternatives qui refusaient d'être intégrées au réseau étatique. Il y a eu des tentatives de les intégrer au réseau étatique, de voir les femmes victimes de violences comme des femmes mésadaptées, alors qu'elles disaient non, elles ne sont pas mésadaptées, elles sont victimes de violences conjugales, c'est un problème social et il faut les soutenir. Fait qu'on est parti avec très peu de moyens, beaucoup de cœur, d'énergie, de brassage d'idées, de femmes de différents horizons, de différents âges, et on a fait avancer cette situation.
On sent vraiment l'effervescence quand on en parle, puis à quel point le contexte social se prêtait à ça, puis même s'il n'y avait pas beaucoup de moyens, vous avez décidé, ben on va de l'avant quand même, on se retrousse les manches, on développe des services. Comment est-ce que les gens ont réagi à ces maisons-là? Parce que, bon, on a nommé que la problématique n'était pas reconnue au départ. Donc, comment est-ce que c'était perçu de ces maisons-là dans la société de façon générale?
Ben, c'est sûr que ça bousculait et on se faisait dire qu'on exagérait, qu'on dramatisait la situation, qu'on était paranoïaque, que ça se pouvait pas qu'il y ait autant d'hommes violents que ça. Donc, c'est clair que il y a eu des réactions comme ça. Par ailleurs, il y a eu aussi à ce moment-là un mouvement qui a permis d'étendre la discussion. Tu sais, au Québec, il y a eu des colloques régionaux sur la violence en 1980, pilotés par le ministère de la Justice, mais aussi avec l'impulsion du Conseil du statut de la femme, qui a permis d'aller vers des intervenants et d'élargir la discussion. Et malgré les réticences qu'on avait, on a quand même réussi en quelques années à aller chercher une reconnaissance, là. On pourra parler tantôt peut-être des luttes, mais on a réussi à faire ça. Mais ça n'a pas été jamais un long fleuve tranquille, là. Je dirais, à partir du moment où on commençait à admettre la violence, à avoir des politiques, à faire des gains, on a vu des mouvements de ressac, particulièrement suite à Polytechnique, où on s'est mis à dire « c'est pas vrai, il y a pas tant de victimes que ça, il y a eu le manifeste d'un salaud » où on accusait le regroupement, les recherches qui avaient été faites par Linda McLeod et tout ça, d'exagérer le nombre de femmes victimes de violences. Et on a aussi essayé de faire taire les féministes pendant plusieurs années en les accusant d'avoir récupéré ce qui s'était passé à Polytechnique, alors que beaucoup de gens voulaient pas nommer que c'était un crime contre les femmes. Mais malgré ça, on continuait à avancer. Et il y a eu, je dirais, un autre moment de ressac important que moi, j'attribue beaucoup aux gains qui ont été faits sur la perception des pensions alimentaires, sur la défiscalisation des pensions alimentaires. Dans la deuxième partie des années 90, on a vu toute une montée du mouvement masculiniste dire « les hommes ne sont pas que des guichets automatiques » et avec aussi le concours de Statistique Canada qui avait changé sa méthodologie au niveau des enquêtes sur la violence, on s'est mis à dire que les femmes étaient aussi violentes que les hommes. Mais malgré ça, tu sais, moi, je suis quelqu'un d'assez optimiste. Je trouve que malgré ça, on a quand même toujours réussi à avancer et à faire un pas de plus. On n'est pas allé aussi loin qu'on voudrait. Tu sais, on vient d'avoir un rapport du comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales qui a 190 recommandations. Ça nous rappelle qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais on en a fait.
Oui. Puis le Québec, d'ailleurs, est quand même reconnu comme un endroit où il y a eu des gains, des avancées importantes au niveau de la violence conjugale.
Oui, tantôt quand je parlais des luttes puis de la nécessité de reconnaissance de la problématique, en fait, au Québec, on a eu une première politique d'aide aux femmes violentées en 1985. Cette politique-là, elle reconnaissait que les femmes victimes de violences conjugales et d'agressions sexuelles avaient besoin d'aide. Elle donnait un premier financement triennal aux maisons et elle a aussi fait en sorte que La plupart des travailleuses sociales des CLSC à l'époque ont été formées sur la violence conjugale. Ça s'est perdu après, mais c'était quand même important. Là, il y avait toute une batterie de féministes qui sont allées former les travailleuses sociales dans les CLSC et qui ont fait en sorte que des femmes pouvaient être mieux accueillies. Fait que ça, c'est un premier gain qu'on a eu. On a eu aussi des gains au plan législatif. Au début des années 80, les femmes ne pouvaient pas témoigner contre leur mari. Le viol conjugal n'était pas reconnu. Donc, il y a eu des changements au code criminel. Il y a eu des changements au code civil au Québec où on donnait plus de protection bon, aux femmes mariées puis aux enfants qui étaient issus de conjoints faits. Fait qu'il y a eu des changements comme ceux-là et en 86, il y a eu des directives de données aux policiers, aux procureurs pour dire, écoutez, quand la violence se passe en milieu conjugal, on devrait la traiter comme quand elle se passe dans la sphère privée. Vous devriez porter plainte et faire en sorte qu'on traduise les auteurs de violence devant les tribunaux. Il y a encore des ratés, mais c'était quand même un pas important. Donc, on a quand même eu des reconnaissances et en 95, on a une politique qui, cette fois-là, regroupe plusieurs ministères qui essayent d'apporter une réponse plus globale à la violence, qui la reconnaît comme un problème de domination des hommes sur les femmes. Donc, effectivement, au Québec, je pense qu'on a avancé. Moi, je me rappelle en 1980 d'avoir fait un stage au FQJ où on allait visiter des maisons d'hébergement en France. Et si on se compare, c'est quand même désolant de voir comment ce mouvement-là s'est si peu développé en France, alors que nous, ici, les maisons se sont développées. Il y a eu des actions de différents paliers gouvernementaux pour apporter une meilleure protection aux femmes. Tu sais, au Québec, on a, bon, c'est pas toutes des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, mais on a 110 maisons qui peuvent accueillir des femmes qui vivent différentes problématiques. La majorité d'entre elles, c'est des maisons pour femmes victimes de violences conjugales.
Oui. Puis, tu sais, tout ce que tu nommes, là, les changements au niveau politique, au niveau législatif et tout ça, ben c'est des gains qui résultent de luttes que vous avez menées au niveau des maisons d'hébergement et du regroupement. Les mentalités, elles n'ont pas changé par elles-mêmes. Ça a quand même nécessité des efforts immenses.
Oui, oui. C'est sûr qu'on pouvait pas se borner seulement à dire « on va aider les femmes dans les maisons » parce que faire ça sans amener des changements sociaux, c'est une bataille... incessant. Tu sais, quand les maisons ont ouvert, on se disait, en 2000, on va fermer. On était très optimistes. Bon, on est toujours là et c'est vrai que ici, les maisons sont toujours nécessaires. Du soutien pour les femmes à plus long terme sont nécessaires. Il y a des systèmes qui n'ont pas beaucoup évolué ou qui ont reculé. En droit de la famille, les femmes étaient mieux traitées, étaient mieux protégées dans les années 90 qu'elles ne le sont maintenant. Donc, ça nous oblige à être là, à être présente, à souligner ce que les femmes disent, à porter leur voix, parce que quand on est victime de violences conjugales, on s'affiche pas sur la place publique et rares sont les femmes qui ont été elles-mêmes victimes qui vont devenir des figures de proue. Certaines le font, mais ça reste difficile, donc c'est important que les femmes qui sont à côté d'elles dans les maisons prennent ce relais-là et portent leurs paroles et leurs réalités pour s'assurer que les choses évoluent puis qu'on aille vers une société où il y aura moins de violence.
Juste pour nos auditrices puis nos auditeurs, quand tu as nommé que les femmes étaient plus protégées dans les années 90 comparativement aujourd'hui, tu pourrais-tu me donner un ou deux exemples de qu'est-ce qui a changé?
Ben, en général, quand une femme allait au tribunal de la famille dans les années 90, les juges étaient davantage protecteurs et reconnaissaient qu'effectivement, un monsieur pouvait être dangereux pour elle et pour leurs enfants. Et on donnait en général des droits d'accès assez limités aux pères qui étaient violents. Tu sais, ils pouvaient voir les enfants une fin de semaine sur deux, puis voir des mesures comme ça. Alors qu'on a vu depuis le début des années 2000 un mouvement où on va beaucoup plus vers la garde partagée, où on s'est mis à dire que des femmes qui dénonçaient la violence faisaient de l'aliénation parentale. Donc ça, c'est, moi je dirais que c'est des reculs importants qu'on a vécu, qui sont pas on a espoir qu'on va pouvoir travailler ça. T'sais, la loi sur le divorce qui devrait rentrer en vigueur sous peu reconnaît davantage la question de l'importance de la violence quand on regarde quel est le meilleur intérêt de l'enfant. Mais on a eu dans les 20 dernières années des jugements assez dangereux pour les femmes et pour les enfants.
Ouais. Puis tantôt, tu nommais le mouvement masculiniste, les groupes de défense des droits des pères. Il y a des impacts directs sur le terrain, là, comme on peut le constater, malheureusement. Donc, des batailles qui doivent se poursuivre.
Oui, et qui doivent des fois se recommencer ou qu'on n'avait pas eu à faire nécessairement au départ, que là, qu'il faut entreprendre, effectivement.
Mmh. Louis, j'aimerais aussi peut-être te poser une question sur les pratiques d'intervention. Tu fais référence tantôt à l'approche féministe. On sait que cette approche-là a été particulièrement populaire dans les maisons d'hébergement. Pourquoi est-ce que dans les débuts, ça a été l'approche privilégiée, puis en fait, ça l'est encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que cette approche-là est importante pour l'intervention auprès des femmes et des enfants?
Ben, il faut, là aussi, je trouve que c'est intéressant de se rapporter au contexte historique. Au moment où les maisons sont nées, on était aussi dans une époque où il y avait une contestation de la façon de voir les problèmes sociaux, les problèmes individuels. Il y avait toute la contestation de la psychiatrie telle qu'elle était. Tu sais, c'est l'époque où on a dit « va te faire soigner, t'es malade », où il y avait tout le mouvement d'antipsychiatrie. On a vu émerger toute la question de la thérapie radicale en Californie et tout ça. Et vraiment, les intervenantes dans les maisons se sont dit « on peut pas travailler avec les femmes comme si elles étaient mésadaptées, comme si elles étaient que les problèmes qu'elles vivaient du fait d'être violentées venaient d'elles. » Et on peut pas ne pas tenir compte du contexte social dans lequel les choses se passent. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers une réflexion sur les pratiques. Et travailler avec des femmes victimes de violences conjugales, c'est travailler à leur redonner du pouvoir. Donc, il fallait trouver une façon de faire pour, au fond, fallait que la pratique reflète ça aussi. On pouvait pas avoir une intervention d'experte qui se penche sur le problème des femmes, mais c'était plus intéressant de regarder comment, en étant toutes des femmes, on vivait, on était aussi impactés par les stéréotypes sociaux, par les règles qui opprimaient les femmes, et de soi-même faire une réflexion là-dessus et d'être capable aussi de le travailler avec les femmes. Fait que ça a été une impulsion, je dirais, importante là, qui nous a amené vers l'intervention féministe. Et on s'est plus mis dans une posture de regardons quelles sont les contraintes sociales, au fond, qui amènent les femmes à vivre ces problèmes-là, et comment on peut amener des changements sociaux, et comment on peut, avec les femmes, déconstruire ce qu'elles vivent. Tu sais, il y a eu à l'époque, il y avait la riposte des femmes qui avait un livre qui disait « On apprend à être victime, on peut le désapprendre ». Et c'est beaucoup dans cette lignée-là qu'on s'est orienté au regroupement en disant « Ben oui, il faut aider les femmes à se dévictimiser », entre guillemets, c'est-à-dire à sortir des impacts que la violence a eu sur elles et à faire ces prises de conscience-là pour un mieux-être.
Mm-hmm. Avec une approche sociopolitique, en fait, qui mise sur la reprise du pouvoir, mais aussi sur les changements structurels qui sont nécessaires, en fait, pour éliminer la violence conjugale, entre autres.
Oui, effectivement, parce que les femmes, bon, ont des conséquences physiques, psychologiques de la violence, mais en fait, c'est pas une maladie, c'est pas une mésadaptation, c'est des réactions totalement normales à la domination qu'elles ont vécue, mais on peut pas juste travailler avec une femme à la fois. Bien sûr, on le fait dans l'intervention, mais il faut avoir une vision plus large si on veut arriver à des changements et si on veut que moins de femmes vivent cette violence-là.
Mm-hmm. Louise, étant donné que tu es dans le réseau depuis quand même plusieurs années, tu as eu la chance de voir évoluer les maisons d'hébergement au fil des années. Qu'est-ce qui, selon toi, est le plus grand apport des maisons d'hébergement au Québec?
Ben, je pense que c'est d'avoir toujours été là et présente et justement de s'être fait le porte-voix des femmes. Mmh. Et ce qui a permis d'amener des changements sociaux, d'obliger les décideurs à tenir compte de la problématique de la violence, de pas garder ça de façon banale. Moi, je pense que c'est un élément qui a été fort important. L'expertise qui s'est développée dans les maisons aussi, qui est assez unique là pour intervenir auprès des femmes et que on aimerait bien être capable de encore davantage transmettre à d'autres intervenants. Je pense que c'est des éléments qui sont importants. Les maisons sont dynamiques, sont à la recherche de toujours des façons d'intervenir, de mieux soutenir les femmes, mais aussi de plus faire de changements sociaux. Donc, je pense que ça, c'est des acquis importants.
C'est intéressant quand on parle à des collègues européennes, tu sais, le modèle québécois, les maisons du Québec, c'est quand même quelque chose qui est bien reconnu aussi là, dans d'autres pays. Fait que c'est intéressant de voir que tout le travail qui a été fait, il y a quand même une certaine reconnaissance aussi.
Oui.
Oui. Finalement, Louise, est-ce que tu aurais un souhait pour les maisons d'hébergement de l'avenir?
Bien, écoutez, ce que les maisons veulent, je dirais que le souhait, il est d'abord avant tout pour les femmes, que les femmes vivent moins dans la violence, soient plus, aient accès à la liberté, à la dignité. Mais pour faire ça, on a encore des changements à faire et peut-être le souhait que j'aurais, c'est que, au fond, les maisons soient capables, aient les moyens de davantage accompagner d'autres intervenants pour qu'on arrive à des changements plus en profondeur pour plus de femmes. On voit pas toutes les femmes dans les maisons, donc c'est essentiel que celles qui sont soutenues ailleurs aient accès à une qualité de soutien. Et pour ça, ben il faut que les maisons aient les moyens d'avoir des équipes suffisamment stables et aient les moyens de leur permettre de sortir pour aller au-devant. Tu sais, comme il y a une région qui me disait dernièrement, ils viennent de conclure un protocole pour aller former tous les intervenants en protection de la jeunesse. Mais la coordonnatrice qui me racontait ça disait, mais moi, je vais avoir besoin d'intervenants pour être capable de sortir et d'aller faire ces formations-là. Donc, moi, je dirais, c'est un peu ça que je leur souhaite et je leur souhaite aussi que cette vision-là se répande pour qu'un jour, les luttes soient moins difficiles. Tu sais, les luttes autour de, justement, toute la question d'aliénation parentale, qu'on puisse arriver à défaire ça avec des alliances fortes, non seulement avec le milieu universitaire, mais avec d'autres milieux de pratique, pour être capable de, effectivement, permettre aux femmes de vivre en toute liberté.
Bien, un gros merci, Louise, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé ton expertise. C'était vraiment, vraiment intéressant, emballant et inspirant. Donc, vraiment, un gros merci.
Ça m'a fait plaisir.
Bon, et Alex, j'aimerais ça entendre vos réactions sur ce que Louise nous a partagé.
Ben moi, je dois dire qu'une des choses qui m'a vraiment frappé dans les propos de Louise, c'est lorsqu'elle a expliqué que au niveau notamment du droit familial, les femmes et les enfants étaient davantage protégés dans les années 90 qu'elles le sont maintenant. Pour travailler quand même sur ces enjeux-là depuis quelques années, là, je trouve que cette comparaison-là est extrêmement intéressante, mais soulève quand même beaucoup de questions au niveau de l'efficacité actuelle de notre système de justice, là, notamment en droit familial. Mais je pense qu'au-delà de ça, ce que j'ai trouvé moi extrêmement inspirant dans les propos de Louise, c'est que je trouve qu'il faut pas oublier tout le travail, tous les efforts et toutes les avancées qui ont été faites depuis les années 70. C'est assez incroyable, en fait, tout ce qui s'est fait et toutes les batailles qui ont été livrées et dans une certaine mesure gagnées depuis les années 70. Et je pense qu'il faut pas l'oublier puis le perdre de vue parce que ça peut devenir un peu décourageant et épuisant parfois quand on est impliqué dans certaines luttes actuellement, notamment au niveau du droit familial ou de la protection de la jeunesse, mais quand on prend un peu de recul, là, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites depuis les années 70, donc il faut continuer de se battre pour continuer le progrès. Là.
Mm-hmm. Mm. Moi, j'aimerais souligner, dans le fond, puis ça revient à ce que Louise disait, mais toute l'expertise des intervenantes en maison d'hébergement sur la problématique des violences faites aux femmes, la violence conjugale, l'intervention auprès des enfants et tous les enjeux sociaux, politiques, économiques qui sont reliés à ça. Je trouve que le travail et l'analyse des intervenantes mériterait qu'on s'y attarde un peu plus, qu'on fasse plus de place. Notamment quand il y a des débats sociétaux sur le droit de la famille, les réformes, protection de la jeunesse, tout ça. Puis un autre exemple aussi, quand au fédéral, on avait imposé la résidence permanente conditionnelle dans les contextes de parrainage, tout de suite, les intervenantes en maison d'hébergement ont revendiqué qu'il y a une exception pour les femmes victimes de violences conjugales, comme elles sont toujours les premières à réagir pour veiller à ce que la sécurité des femmes et des enfants soit pas à l'écart. Donc, j'aurais peut-être un souhait, ça serait qu'on fasse plus de place à l'expertise des maisons d'hébergement, des intervenantes. Ouais.
Mm-hmm. En tout cas, c'était vraiment intéressant d'entendre Louise puis de se replonger dans l'histoire fascinante des maisons d'hébergement. Et soit dit en passant, les intervenantes dans ces ressources-là travaillent présentement d'arrache-pied pendant cette pandémie pour continuer d'assurer la sécurité des femmes et des enfants. Donc, on en profite pour saluer toutes les intervenantes qui travaillent dans ces ressources-là et qui continuent d'offrir les services là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ce qui met fin à notre troisième épisode de notre balado Femmes en vie. Si le sujet vous a intéressé, on vous invite à rester à l'affût parce qu'on va revenir sur les maisons d'hébergement dans d'autres épisodes. Merci Alex et Simon et bonne journée internationale des femmes à nos auditeurs.